Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et milieu d'une semaine sur Kant dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine donc sur le plus ardu des philosophes en compagnie d'un interlocuteur unique, Michael Fessel, maître de conférences à Dijon. Michael Fessel qui connaît Kant sur le bout des doigts et vous le présente avec l'objectivité amoureuse et désintéressée sans laquelle une pensée comme celle-là s'abîme dans le dédale des interprétations. Après la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, c'est de la critique de la faculté de juger qu'il sera question aujourd'hui. Encore une critique donc, et dans cette critique-là, nous parlerons en particulier du paragraphe 9, l'idée que le beau plaît universellement mais sans concept, du paragraphe 16 et de la distinction qu'il faut faire entre la beauté libre, c'est magnifique, et la beauté adhérente, du paragraphe 42, où Kant parle du rossignol et du sens à donner à la supériorité de la nature sur l'art, de la question du génie et enfin de l'éventualité de tirer l'esthétique de Kant au-delà d'elle-même vers une pensée de l'amour, voire de la démocratie. Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Re-bonjour, re-re-bonjour et bienvenue de nouveau sur France Culture pour parler de Kant. On est à mi-chemin d'une semaine consacrée à la philosophie d'Emmanuel Kant. C'est beau ce qu'on entend, non ?
Oui, mais peut-être parce que nous ne savons pas pourquoi.
Voilà, vous posez les bonnes questions. Pourtant, c'est à moi de le faire, ce sont les vêpres solennelles d'un confesseur. C'est du Mozart. On sait que c'est beau et on ne sait pas en vertu de quoi c'est beau. C'est étrange.
On sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi c'est beau, mais l'on sait d'un savoir qui est en réalité un sentiment, que cela nous plaît. Et au fond, la grande question de Kant, dans ce livre qui s'intitule « La critique de la faculté de juger esthétique », sa grande question, c'est de savoir ou de comprendre pourquoi on ne comprend pas et que pourtant ce qui pourtant nous plaît. Et vous savez, les classiques disaient que le beau, c'est un je ne sais quoi. C'est quelque chose qui, au fond, nous émeut sans que l'on puisse pour autant y trouver un concept.
Formule qu'il faut prendre ici au pied de la lettre.
Au pied de la lettre.
Je ne sais quoi, un je ne sais pas quoi.
Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, et pourtant cela me touche ou cela signifie quelque chose. C'est un sens qui n'est pas une connaissance, pourrait-on dire, le beau. Eh bien, Kant reprend ce thème, mais ce sens qui n'est pas une connaissance, il l'appelle un plaisir. Un plaisir pur, c'est-à-dire un plaisir qui n'est pas lié à un désir. Lorsque je suis face à quelque chose de beau, je ne désire pas m'approprier cette chose. Donc le plaisir n'est pas la conséquence de la satisfaction d'un désir. Plaisir pur, cela veut dire que dans le beau, dans l'esthétique, il y a une forme de jouissance qui n'est pas la conséquence de la satisfaction d'un
désir. Une jouissance désintéressée, il dira.
Désintéressée, parce qu'effectivement, je ne suis pas intéressé à l'existence de l'objet. Qu'est-ce que cela voudrait dire d'ailleurs, l'existence d'une symphonie, l'existence de ce que représente un tableau, et même l'existence, en un sens, d'un beau paysage, que cette chose existe comme objet ou pas, ne change rien au fait qu'elle me plaît. Et donc, au fond, le beau, c'est une réalité fondamentalement subjective.
Une réalité fondamentalement subjective et désintéressée. Néanmoins, d'abord, il faudrait voir dans quelle mesure on peut être subjectif et désintéressé. Mais prenons un exemple encore plus concret. C'est un exemple, d'ailleurs, qu'on a déjà employé au Nouveau Chemin. Vous vous souvenez du début du Mépris de Godard, tu les trouves belles, mes fesses. Si on trouve belles les fesses de Brigitte Bardot, le plaisir qu'on prend à leur spectacle n'est pas un plaisir désintéressé. Et pourtant, on est en présence de beauté.
Oui, si Godard avait été plus qu'ancien, il aurait fait dire à Brigitte Bardot, tu les trouves agréables, mes fesses. C'est-à-dire
voilà,
qu'en réalité, Kant distingue le beau de l'agréable. L'agréable, c'est tout ce qui fait plaisir. Et le beau, c'est ce qui plaît. Et l'agréable, c'est donc précisément quelque chose qui évoque en moi un désir et qui, par conséquent, est une promesse, je dirais, de jouissance et de bonheur. Dans le plaisir esthétique, on pourrait dire d'une certaine manière que la jouissance n'est pas le résultat d'une promesse, elle ne promet rien. Qu'après tout, les pommes d'une nature morte ne sont pas la promesse d'être rassasiées. En revanche, c'est la forme elle-même qui importe, non pas évidemment l'objet comme tel, mais ce qui importe dans une belle rose, hein, autre exemple de Kant, c'est la forme que prend cette rose, indépendamment, premièrement, de ce que je sais de ce qu'est une rose.
Et indépendamment de son parfum.
Et indépendamment, effectivement, de son parfum, c'est-à-dire de ce qu'elle produit d'agréable directement sur moi. L'agréable, c'est ce qui renvoie, disons, au sujet en tant qu'il a un corps, alors que le beau, c'est ce qui renvoie au sujet en tant qu'il a ce que Kant appelle une faculté de juger esthétique, c'est-à-dire, au fond, quelque chose de l'ordre d'une sentimentalité originaire. Hein,
de sorte qu'une odeur ne peut jamais être belle chez Kant. Elle est toujours agréable.
Une odeur comme telle, comme une couleur comme telle, ne peut pas être belle, elle peut être agréable. Mais une odeur associée à une forme, ou une couleur associée à une forme, dans le cas d'une peinture, ou même d'un paysage, peuvent être considérées comme beaux.
C'est-à-dire que est-ce que l'odeur participe, alors à ce moment-là, du jugement qui me fait dire c'est beau?
Oui, elle y participe, mais pas au sens où on pourrait juger, au fond, quantitativement, de ce qu'elle rajoute à la chose dont elle est l'odeur. Au fond, une chose belle, ou une forme belle, pour le dire comme Kant, est une forme totale, dont je ne peux pas disséquer, si vous voulez. Quand on dit je ne sais quoi, cela veut dire, eh bien, je ne peux pas savoir si c'est spécifiquement la forme, la figure, ou bien l'odeur, ou bien la couleur. Il y a là quelque chose comme une forme insécable, absolue, enfin absolue, pas exactement absolue, mais en tout cas que je ne peux pas analyser. Et c'est bien cela qui explique pourquoi la beauté n'est absolument pas une connaissance. Il n'y a pas de concept de beau, c'est encore un des aspects, disons, de l'antiplatonisme de Kant. On ne peut pas savoir, il ne s'agit pas de s'élever de la beauté des corps à l'idée de beauté, parce que cela supposerait que l'on pourrait définir la beauté. Or, la beauté, on ne la définit pas au sens où nous aurions un concept de beau sous lequel se laisserait ramener un certain nombre de choses, d'œuvres, de paysages. En réalité,
qui nous permettrait de dire à coup sûr c'est beau puisque c'est conforme à telle définition, voilà, de la beauté.
C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait des modèles qui réaliseraient parfaitement la beauté. On a souvent reproché.
C'était la statuaire grecque, en somme.
Exactement, c'est la théorie, disons, de l'exemplar. Il y aurait des méthodes, des modèles absolus de la beauté. On a souvent reproché à Kant de ne pas avoir beaucoup d'exemples dans sa critique de la faculté de juger, ou des exemples relativement pauvres. Alors c'est une critique qui peut être défendue, mais il faut toujours rappeler que, enfin, la raison pour laquelle il y a peu d'exemples, parce qu'en réalité, nulle musique ne condense la beauté, n'en est en quelque sorte l'incarnation totale, parce que cela supposerait, on serait encore dans un modèle de la connaissance, un concept qui s'applique à une intuition. Ici, on part d'une intuition, on part d'une forme, et on cherche, c'est le propre de ce que Kant appelle
le jugement réfléchissant.
Voilà, on parle d'un paysage, on parle d'une forme, et on tâche de s'élever, sans y arriver d'ailleurs totalement, à l'idée que cette forme évoque en nous.
Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et c'est tout à fait important d'examiner tout cela. La différence entre Kant et Platon, qui est également ici la différence entre Kant et Hegel d'ailleurs, en matière de jugement de beau et du rôle que la beauté doit jouer. On pourrait en somme dire que Platon, comme Hegel, indexe la beauté sur la vérité, intègre la beauté dans un processus de déploiement spirituel qui nous conduirait par le biais de la beauté vers une certaine forme de vérité. Et de ce point de vue, Hegel, l'esthétique hegelienne, qui pourtant, elle, foisonne d'exemples. Hein. Hegel avait une connaissance de l'art bien supérieure à Kant, manifestement. Les leçons d'esthétique de Hegel témoigne pour autant et culmine dans ce qu'on a appelé la mort de l'art, témoigne cependant d'une indexation de la beauté sur autre chose qu'elle-même, qui serait donc la vérité ou la réalisation de l'esprit absolu. Chez Platon, le beau est le marchepied du bien ou du vrai, ce qui est finalement la même chose. Chez Kant, alors chez Platon comme chez Hegel, on aurait à ce moment-là, on serait en présence d'un concept du beau éventuellement. Chez Kant, en revanche, il n'y a pas de jugement déterminant, donc il n'y a pas de concept avec des réalités particulières qui s'intégreraient dans ce concept, mais un jugement réfléchissant et par là même une supériorité de la nature sur l'art. Et je voudrais qu'on revienne sur tout cela, Michael Fossel. Dans quelle mesure la supériorité de la nature sur l'art permet de sauver justement l'art de sa subordination à la vérité?
La connaissance. Oui, là, pour Kant, le beau n'est en aucune manière une sorte de propédeutique, hein,
de préparation
à la connaissance. Et de ce fait, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de fin de l'art ou de mort de l'art. Le concept, d'ailleurs, que Kant, enfin le concept, la formule qu'il emploie, une des formules à propos du beau, c'est la finalité sans fin. C'est-à-dire un plaisir qui ne trouve jamais son achèvement dans une connaissance. La philosophie, en quelque sorte, n'est pas la vérité de la beauté, elle ne la détient pas, elle n'abolit pas non plus la beauté. Alors la question de la différence entre l'art, au sens des beaux-arts, et la nature est un petit peu différente à mes yeux, parce que si chez Kant, en effet, il y a un primat, une plus grande importance de la nature, de la beauté naturelle sur l'art, c'est pour plusieurs raisons, dont l'une renvoie à notre débat. La raison fondamentale, je crois, c'est que quand même, le beau, c'est une expérience, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, de la liberté. Que la liberté, au fond, là où elle est le plus instructive, c'est lorsqu'elle se manifeste dans la nature, dans son autre, en quelque sorte. Bon, donc c'est pour cela que le beau naturel est plus important pour Kant que le beau artistique. Mais c'est vrai que le beau artistique est moins important pour une autre raison, c'est que Kant soupçonne, au fond, toujours le modèle des beaux-arts de reposer sur l'idée d'une perfection. C'est-à-dire comme si le beau était la réalisation d'une perfection. C'est ce qu'il appelle la beauté adhérente dans la critique de la faculté de juger. Il oppose la beauté adhérente à la beauté libre. Et la beauté adhérente, c'est l'idée selon laquelle il y aurait, l'exemple qu'il prend, c'est celui de la statuaire grecque précisément, il y aurait un modèle de perfection et que toutes les créations artistiques qui se rapprocheraient de ce modèle seraient en elles-mêmes belles.
Michael Fossel, je vous interromps sans le faire. On va entendre justement le texte dont vous parlez. On est dans l'analytique du beau, c'est-à-dire la première partie de la critique de la faculté de juger. Et c'est le paragraphe 16, beauté libre et beauté adhérente. Écoutez.
Il existe deux espèces de beauté. La beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l'objet doit être. La seconde suppose un tel concept et la perfection de l'objet d'après lui. Les beautés de la première espèce s'appellent des beautés de telle ou telle chose. L'autre beauté, en tant que dépendant d'un concept, est attribué à des objets compris sous le concept d'une fin particulière. Des fleurs sont de libre beauté naturelle. Ce que doit être une fleur, peu de gens le savent, hormis le botaniste, et même celui-ci, qui reconnaît dans la fleur l'organe de fécondation de la plante, ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. Ainsi, au fondement de ce jugement, il n'est aucune perfection de quelque sorte, aucune finalité interne à laquelle se rapporte la composition du divers. Beaucoup d'oiseaux, le perroquet, le colibri, l'oiseau de paradis, une foule de crustacés marins sont en eux-mêmes des beautés qui ne se rapportent à aucun objet déterminé quant à sa fin par des concepts, mais qui plaisent librement et pour elles-mêmes. Ainsi les dessins à la grecque, des rideaux pour des encadrements ou sur des papiers peints, etc., ne signifient rien en eux-mêmes. Ils ne représentent rien, aucun objet sous un concept déterminé, et sont de libre beauté. On peut encore ranger dans ce genre tout ce que l'on nomme musique d'improvisation, sans thème, et même toute la musique sans texte.
La critique de la beauté adhérente de Kant, on peut la comprendre comme une critique de la conception artisanale de l'art. Cela veut dire qu'au fond, pour Kant, l'artiste, ça n'est pas un bon technicien, ce n'est pas quelqu'un qui, à partir d'un modèle, d'une certaine manière, réaliserait plus ou moins adéquatement ce modèle dans une matière. La beauté, fondamentalement, elle est libre. Cela veut dire qu'on la retrouve dans des choses, dans des éléments dont nous n'avons pas d'idéal. Dans le texte qui a été lu, Kant dit « ce que doit être une fleur, nous l'ignorons », à part le botaniste, mais le botaniste n'est pas un artiste.
Et puis surtout, le botaniste l'ignore quand il trouve belle la fleur.
Voilà, quand il la trouve belle, il n'est plus botaniste.
Il n'est plus botaniste.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, je dirais, newtonien et artiste, on peut être alternativement l'un et l'autre, mais on envisage la nature de manière différente selon qu'on l'envisage selon, disons, l'ordre de ses causes et de sa productivité, ou alors qu'on l'envisage selon ses formes et sa beauté. Et d'une certaine manière, l'art, c'est l'oubli de la science, c'est l'oubli du savoir. Il faut, c'est l'un des leitmotifs de la critique de la faculté de juger, pour avoir un rapport esthétique au monde, il faut avoir d'une certaine manière refouler le rapport théorique, le rapport de connaissance et aussi le rapport d'ailleurs pratique et le rapport moral. Kant, dans les Lumières, c'est celui qui dira que l'art, et ça n'est pas si courant au XVIIIe siècle, n'a rien à voir ou très peu, rien à voir, radicalement rien à voir avec la connaissance et très peu à voir avec la morale.
C'est la raison pour laquelle, hein, il dit, aucun Homère, aucun Wieland ne peuvent montrer comment dans leurs idées, dans leur esprit surgissent et s'assemblent leurs idées pleines de poésie et néanmoins tout aussi riches de pensée parce qu'ils l'ignorent eux-mêmes et donc ne peuvent l'enseigner à personne d'autre, contrairement à Newton qui eût pu montrer de manière tout à fait claire et précise, non seulement pour lui mais pour tout autre et pour ses successeurs, toutes les étapes qu'il eut à franchir depuis les premiers éléments de géométrie jusqu'à ses grandes et profondes découvertes. Il y a donc ici une différence de nature, un saut qualitatif, l'introduction peut-être de la qualité, enfin vous allez dire que c'était une catégorie dès le départ, mais l'introduction je dirais de la qualité, en tout cas un au-delà de la quantité, un non quantifiable, un élément non quantifiable, et une forme de connaissance peut-être non quantifiable et non conceptuelle chez Kant, avec la distinction qu'il pose entre d'un côté Newton et de l'autre Homère. Newton peut dire comment il a découvert tout ce qu'il a découvert, Homère ne peut pas dire pourquoi il a écrit l'Odyssée.
Oui, et de ce fait d'ailleurs, c'est la théorie du génie, le génie n'est pas un technicien, il n'y a pas de génie en science, parce que la caractéristique de l'artiste, c'est que ce qu'il crée est non reproductible. D'une certaine manière, c'est une réponse par avance à ou une annonce, en tous les cas, de ce que dira Benjamin sur l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique. Pour Kant, le beau, et aussi donc l'œuvre d'art, est par définition singulière.
C'est-à-dire non transmissible, on ne peut pas l'enseigner.
On peut enseigner tout ce qui, dans la production artistique, relève de la technique, et bien sûr, cela existe, mais certainement pas ce qui est à la source même de l'œuvre, c'est-à-dire la constitution, là on se place du point de vue des beaux-arts, la constitution de belles formes. Ce qui est à dire, au fond, on ne peut pas l'enseigner, et c'est la raison pour laquelle on peut le partager, puisque l'une des caractéristiques fondamentales de la beauté...
C'est son universalité.
Sans concept. C'est-à-dire, c'est une universalité qui n'est pas une universalité fondée sur une connaissance. Si je produis une démonstration scientifique, elle devient universelle pour tous ceux qui sont en mesure de la comprendre. En revanche, l'universalité du beau, c'est une universalité présomptive, c'est-à-dire j'attends des autres qu'ils trouvent beau ce que je trouve beau. C'est une attente, c'est une exigence, c'est peut-être une espérance. Et ce qui intéresse beaucoup Kant, c'est de savoir comment se fait-il que dans ce qui est sensible ici, puisqu'après tout il s'agit d'un plaisir, c'est de la sensibilité qu'il s'agit, du sentiment en tous les cas, comment est-ce qu'il y a une forme d'universel dans le sensible ? Et cela va aussi contre une certaine conception un peu rigoriste de Kant, où on croirait que la raison a l'apanage en quelque sorte de l'universel.
Non. Mais j'allais vous dire, est-ce que la critique de la faculté de juger, moi qui ne suis pas kantien, est-ce que la critique de la faculté de juger n'est pas le texte le moins kantien de Kant, c'est-à-dire le texte finalement dans lequel se retrouvent tous ceux qui ne sont pas kantiens.
Oui, c'est un petit peu comme les mots de Sartre, quand même tous ceux qui n'aiment pas Sartre, mais il y a effectivement dans la critique de la faculté de juger des textes un peu saisissants, on parlera tout à l'heure du sublime, qui ne semblent pas a priori ou au premier regard tout à fait dans la lignée des autres textes de Kant.
Alors, pour préciser la question, dans la critique de la raison pure, Kant pose un au-delà de la connaissance, est-ce qu'il ne le rend pas tangible dans la critique de la faculté de juger ? Est-ce que cet au-delà n'est pas finalement immédiatement accessible dans l'expérience esthétique ? Est-ce qu'il ne parle pas à un moment de faveur divine, en parlant de beauté, justement ? Alors que Dieu se donne comme un au-delà de la connaissance, est-ce qu'ici il ne touche pas du doigt cet au-delà de la connaissance ?
Dans mon souvenir, il parle d'une faveur de la nature, hein, plutôt que d'une faveur divine, c'est-à-dire qu'il ne décide pas de l'origine de cette
faveur. Certainement vous qui avez raison.
Il ne décide pas, mais c'est très différent, en ce sens qu'il il n'affirme pas, si vous voulez, ce qui serait une affirmation pour le coup métaphysique, au sens qu'il critique, que c'est Dieu qui aurait, comme
c'est
une espèce,
que je pose la question.
Par initiative créatrice en quelque sorte, fait du monde un monde beau. Hein. Il y a des preuves de l'existence de Dieu, on en avait évoqué une, mais il y en a une autre. Une des preuves de l'existence de Dieu dans la tradition métaphysique consiste à dire qu'au fond, un monde aussi parfait, aussi beau, aussi harmonieux est un monde qui ne peut avoir que, dont on peut postuler,
une intention, penser,
une intention qui préside et une intention bonne qui préside à sa création. Donc en fait, on passe du monde à Dieu. Bon. Kant critique cette preuve non moins que les autres. Par contre... Ce qu'il reconnaît, en effet, et là on peut voir un bouger peut-être par rapport à la critique de la raison pure, c'est que la beauté de la nature peut inspirer au sujet qui en est le témoin quelque chose qui dépasse la nature. Mais cette inspiration, se donner en tant que telle dans un sentiment, encore une fois, on le verra aussi, c'est propre au sublime cela, cette inspiration ne devient jamais une connaissance, encore une fois. Le point de départ n'est pas une connaissance, donc du suprasensible, et ça c'est, je dirais, du début à la fin de la période critique de Kant, du suprasensible, il n'y a pas, il ne peut y avoir en aucune manière, donc suprasensible, ce qui dépasse la nature, il ne peut y avoir en aucune manière une connaissance théorique.
Mais Michael Fesal, il ne peut y avoir aucune connaissance théorique si l'on s'en tient justement au sens que donne Kant à la notion de connaissance elle-même. Kant n'envisage pas la possibilité d'une connaissance qui soit non conceptuelle. Or, il parle de la beauté comme universelle et non conceptuelle. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'en termes kantiens, il ne s'agit pas de connaissance. Mais à ce moment-là, il faudrait redéfinir la notion de connaissance et tirer Kant vers autre chose que lui-même, c'est-à-dire la possibilité de connaître, comme on peut dire, par exemple, bibliquement d'un homme qu'il a connu une femme, c'est-à-dire qu'il a couché avec elle, par exemple.
Oui, mais cela ne donne encore aucun présage de ce qu'est le suprasensible. Dans l'exemple que vous prenez et dans l'exemple
c'est vous qui le dites.
Et dans l'exemple esthétique de Kant. Si vous voulez, le problème de Kant, c'est d'éviter les transgressions trop rapides. Hein. C'est un philosophe qui trace des limites et en ce sens-là, il insiste beaucoup sur deux faits qui peuvent en effet sembler contradictoires, à la fois le désir de la transgression et l'impossibilité de la réaliser. Alors, dans l'expérience esthétique, nous ne sommes pas dans une expérience mystique, pas seulement parce que ça n'est pas une connaissance, mais aussi d'ailleurs parce que c'est un jugement. Malgré le fait, hein, c'est dans la critique de la faculté du juger, bien que ce ne soit pas une connaissance, c'est un jugement. Cette rose est belle, un jugement singulier, qui a sa logique propre. On n'est pas non plus dans l'irrationnel total de l'affectivité et de la...
C'est un jugement qui, quand il est énoncé, prétend valoir universellement.
Oui, quand je dis cette rose est belle, je ne présuppose pas dans la thèse de Kant que cette rose est belle pour moi. Je prétends que cette rose est belle et qu'elle doit être belle ou perçue comme telle par tous, ce qui est la différence encore avec l'agréable. Lorsque je dis le sucre me plaît ou le sucre est bon ou ce qui est sucré est bon, là c'est quelque chose qui relève de mon idiosyncrasie, si j'ose dire, de mon individualité propre. Donc il y a une prétention à l'universel, mais qui ne se réalise jamais dans une connaissance et que Kant va finalement, in fine, je dirais, dans le paragraphe 49 de la critique de la faculté de juger, ramener... à la morale, c'est-à-dire il dira au fond, c'est comme un devoir, pour ainsi dire comme un devoir, que je vais demander que les autres, ou que j'attends que les autres partagent le sentiment esthétique que j'ai face à une chose belle.
Le génie et le talent, le don naturel, qui permet de donner à l'art ses règles. Puisque le talent, en tant que faculté productive innée de l'artiste, ressortit lui-même à la nature, on pourrait formuler ainsi la définition « Le génie est la disposition innée de l'esprit, ingenium, par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles ». Si j'étais élève en terminale, Michael Fesal, je vous dirais, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, hein? Le génie est la disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles. Si on élève un peu le niveau, je peux également vous demander pourquoi, en vertu de quoi, l'art aurait des règles puisque le beau ne relève pas du concept.
D'abord parce qu'il faut distinguer les règles et les concepts. Les concepts, ce sont des connaissances. Les règles, l'artiste, le génie en l'occurrence... D'une certaine manière, il ne les invente pas, mais il les révèle. C'est pour ça qu'on dit que Kant dit que c'est la nature qui donne à l'art ses règles. Ce faisant, il veut dire deux choses. D'abord, le génie, ça n'est pas une espèce d'être extra-naturel. Voilà, c'est contre les conceptions, alors par avance, si je puis dire, contre les conceptions romantiques du génie qu'on trouvera en Allemagne très.
Et
très
pourtant, le génie ne relève pas de la quantité, il ne relève pas non plus de la connaissance. Il n'est pas extra-naturel, mais il ne peut pas faire l'objet d'une connaissance.
Voilà, mais ce qui excède la connaissance n'excède pas pour autant la nature. C'est-à-dire que le génie est un homme, si vous voulez, ordinaire, doué d'un pouvoir extraordinaire, en un sens, ou pouvoir, en tout cas, ou un talent, comme le dit Kant, tout à fait singulier. Mais quel est ce talent ? Ce talent, aux yeux de Kant, c'est pour ça qu'au fond, il ne sort pas de la nature, hein, le génie n'est pas un petit dieu, en quelque sorte. Ce talent, c'est de révéler des règles déjà naturelles, hein, mais de les révéler dans un domaine qui n'est plus celui de la nature, mais de l'art. Au fond, pour le dire peut-être plus simplement, l'art réussi pour Kant, c'est l'art qui se laisse oublier comme art. Voilà. Et c'est pour ça que les exemples, d'ailleurs, la plupart des exemples de Kant sont des exemples empruntés à la nature. Le chant du rossignol, ce moment où je ne sais plus très bien si j'entends une mélodie ou un animal, ou un oiseau. C'est-à-dire ce moment où on est dans une espèce d'entre-deux, c'est toujours le je ne sais quoi, un entre-deux entre la nature et l'artifice. Mais l'art réussi, encore une fois, c'est un art qui d'une certaine manière, enfin l'œuvre d'art réussi, c'est l'œuvre d'art qui efface ses traces. C'est-à-dire où on ne reconnaît plus l'auteur et le génie. Le génie, pour Kant, ce n'est pas ce personnage absolument démiurgique, hein, qui serait au fond une sorte de créateur total de l'œuvre. Le génie s'oublie dans son œuvre et doit être oublié comme tel.
L'œuvre d'art est nomothétique, on peut dire ça. Elle crée à elle-même sa propre loi.
Elle crée à elle-même sa propre loi.
On retrouve cette idée chez Proust quand il parle de chaque artiste comme d'un cataclysme nouveau.
Oui, c'est-à-dire, ou alors quand il dit que toute œuvre d'art est écrite dans une langue, enfin toute grande œuvre littéraire dans une langue étrangère, c'est-à-dire qu'il invente une grammaire, Kant dirait une forme, évidemment, une forme qui, alors c'est là où ça devient compliqué, n'a jamais été encore montrée hein, à l'humanité, disons, mais qui, et là Kant reste, je dirais, très prudent et tout de même sous-jacente à la nature. C'est-à-dire, l'art n'est pas une surnature, voilà. L'art n'est pas, l'homme ne peut pas, par son imaginaire, disons, absolument inventer quelque chose d'absolument irréductible à l'ordre de la nature.
L'art n'est pas une surnature, mais l'art n'est pas non plus le secret d'une nature dont il s'agirait de transcender les apparences pour découvrir la vérité inaltérable, puisque les règles que le génie dévoile ou que le génie révèle ne deviennent pas ensuite des normes, ne deviennent pas ensuite normatives, ne prétendent pas valoir indéfiniment et éternellement. Le paradoxe, c'est que ces règles sont nouvelles à chaque fois et pourtant il parle de règles.
Bien sûr, ce sont des règles au sens où elles créent leur tradition, en quelque sorte. Elles deviennent rétroactivement
elles
des
font
règles,
école.
Elles font école, elles font tradition, mais vous avez tout à fait raison de dire que le génie n'est pas mieux placé que le métaphysicien et pas mieux placé que le prêtre pour savoir ce qu'il en est de l'essence des choses, de Dieu et de l'essence de la nature. Le voile d'Isis, hein, c'est une référence que Kant fait dans la critique de la faculté de juger, le voile d'Isis ne sera jamais, celui qui cache donc l'essence des choses, ne sera jamais totalement relevé, pas même par l'art.
Alors vous avez parlé du rossignol, on est au paragraphe 42 dans l'analytique du sublime. Hein, c'est la deuxième sous-partie de la critique de la faculté de juger. On est au paragraphe 42, voici ce qu'il dit. Et c'est très important de le comprendre, et c'est d'autant plus important de le comprendre que c'est assez facile à comprendre, bizarrement. Voici ce qu'il dit. Quoi de plus apprécié ? C'est un des rares passages, d'ailleurs, un peu fleuri, de la critique de la faculté de juger. Quoi de plus apprécié des poètes que le trillant chanteur du rossignol, lancé d'un bosquet solitaire par une calme soirée d'été sous un doux clair de lune ? Mais on connaît des exemples de ce que, lorsqu'on a pu trouver un tel chanteur, quelque hôte malicieux a su tromper, pour leur plus grande satisfaction, les invités venus chez lui jouir de l'air de la campagne, en dissimulant dans un buisson un jeune espiègle qui sache imiter avec une apparence de parfait naturel ses trilles en sifflant dans un jonc ou un roseau. Mais dès qu'on est persuadé de la supercherie, personne ne supportera longtemps d'écouter ce chant auparavant si attrayant. Et il en va de même avec tout autre oiseau chanteur. Pour que nous puissions prendre un intérêt immédiat à ce qui est beau en tant que tel, il faut que cette beauté soit naturelle ou qu'elle passe pour l'être à nos yeux. A fortiori, lorsque nous nous autorisons à supposer que d'autres doivent y prendre intérêt. Cette expérience, on peut tous la faire. Demain matin, on trouve qu'il y a quelque chose d'harmonieux dans la nature et qu'on s'aperçoit, ou que les bruits de la nature sont harmonieux et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un magnétoscope ou un magnétophone ou une chaîne hi-fi dissimulée derrière un buisson qui restitue ces bruits de manière à créer une harmonie, ou si on est émerveillé par un feu de cheminée avant de s'apercevoir que les bûches ne sont pas du bois... Et qu'on est déçu. Cette expérience-là, c'est l'expérience ici que décrit Kant.
Oui, exactement. C'est un texte, au fond, sur la mimésis, sur l'imitation. Kant, là aussi, il s'oppose à Platon, ne critique pas la mimésis. Il ne fait pas de l'art une représentation, une reproduction forcément moins pertinente de la nature. En revanche, ce qu'il non pas condamne, mais ici ce qu'il note ou ce qu'il marque, c'est que l'imitation ne vaut comme art qu'à partir du moment où elle se fait oublier comme imitation. C'est vrai que le modèle de la beauté pour Kant, c'est clairement la beauté naturelle, mais encore faut-il savoir ce qu'on entend ici par nature. Ici, nature, il l'entend presque en un sens classique, c'est-à-dire la nature, c'est ce qui est spontané, c'est-à-dire il y a quelque chose comme de l'ordre de la vie.
C'est ce qui naît.
Voilà, on a la nature comme principe de vie, si vous voulez. Et donc, le rossignol, plutôt que l'imitateur du rossignol, cela veut dire quelque chose qui, au fond, émergerait du monde quasiment spontanément, et sans que d'ailleurs qu'on puisse le comprendre. Et cela, dit-il, dans le texte que vous avez lu, cela crée un plus grand intérêt que l'artifice, la beauté naturelle plus que l'artifice. Alors la question, évidemment, centrale, c'est quelle est la nature de cet intérêt? Qu'est-ce qui fait que nous sommes intéressés par la beauté la nature, par un beau paysage? Qu'est-ce qui nous intéresse, là?
Et d'où vient d'ailleurs ce retour de la notion d'intérêt?
Eh bien, de la raison, précisément. Et là, effectivement, il faut le reconnaître, l'esthétique kantienne, elle n'est pas du tout intellectualiste, mais elle a un rapport à la raison, mais la raison pratique. Ce qui nous intéresse en réalité dans la beauté, pour Kant, dans la beauté naturelle, c'est que nous découvrons à l'occasion de ces expériences esthétiques que la nature, ça n'est pas seulement le règne du déterminisme, c'est-à-dire de l'inverse de la liberté. Qu'il y a place dans la nature pour des expériences, et donc pour un sens, qui dépasse ce que la science peut nous en dire, ce que la physique en l'occurrence, ou la biologie même, éventuellement, enfin surtout dans l'esprit de Kant, la physique, peuvent nous en dire. Donc nous sommes intéressés à ce qui, dans la nature, n'équivaut pas à ce que la physique nous en dit, si je peux dire la chose ainsi. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous intéressés par cela ? Parce que cela est, d'une certaine manière, une expérience déjà du bien moral. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le bien ? C'est précisément la capacité qu'a l'homme à dépasser la nature, à être au-delà des déterminismes. Alors, ça ne veut pas du tout dire que Kant rabat l'esthétique sur la morale, ou le bien, ou le beau, pardon, sur le bien. Cela veut dire que c'est comme s'il y avait, dans les expériences du beau, un écho, une capacité qu'a le sujet, qu'il éprouve lui-même, à ne plus être dépendant de la nature comme un système rigide de loi. La nature nous renvoie dans un beau paysage un sens qui nous invite au fond à agir.
Mais pardon Michael Fossel, mais est-ce que ça n'est pas tout simplement un rappel à la candeur ? Si on voit la pleine lune par exemple au bout d'une rue, on est émerveillé par le spectacle de la pleine lune jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'en fait c'est un réverbère. Si une nuit par exemple où on se dit que la Terre est frôlée par une queue de comète, on cherche les étoiles filantes ou les stigmates de la comète dans le ciel et qu'on est attentif à ça et qu'on voit tout d'un coup une étoile filante qui au lieu de disparaître dans le ciel, s'inscrit durablement dans le ciel, on est émerveillé jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est un satellite. Est-ce que finalement il n'y a pas chez Kant l'idée que une forme d'invitation implicite à regarder le monde avec l'œil d'un enfant ?
Certainement, parce que la différence entre la lune et le réverbère, entre la comète et le satellite, c'est que on y retrouve, pour le cas du réverbère et du satellite, la main de l'homme. Et ce qui intéresse Kant, c'est cette idée que la nature, en quelque sorte, nous ferait don d'une beauté, la nature par elle seule, par elle-même, nous ferait don d'une beauté, et c'est un jugement, en ce sens, un regard, si l'on veut, d'enfant, celui qui croit, si on accepte évidemment de définir l'enfance, par celui qui croit qu'il est entouré par un système de sens, de symboles, de signes, en quelque sorte, qui lui sont adressés. Lorsque l'on comprend finalement...
Il observe avec des regards familiers.
Qu'il observe avec des regards familiers pour le beau, pour le sublime, ça serait plutôt des regards inquiétants.
On y vient.
Bien sûr, mais dans tous les cas de figure, ce qui est très vrai relativement à Kant, c'est qu'on accède, ou une expérience de beauté, c'est une expérience, j'allais dire, neutralisante. Il faut neutraliser nos savoirs, oublier ce que nous savons, donc oublier aussi ce que nous connaissons. Et on accède à cette expérience esthétique que si, alors on pourrait le dire en un sens, on refoule l'adulte qui est en nous, hein, qui est capable d'expliquer le système solaire par des lois parfaitement physiques, ou capable d'expliquer la clairière dans une forêt, pardon, par l'action des forestiers.
Ou qui, pardonnez-moi, étant capable de l'expliquer, continue de le regarder comme si c'était étonnant.
Et de ce point de vue, renonce à l'expliquer. C'est-à-dire qu'il est capable de l'expliquer, si vous voulez, en puissance, mais au moment même où il fait l'expérience esthétique, vous savez, bon, prenons un exemple très simple, hein, il n'y a rien de plus insupportable lorsque vous êtes au musée et que vous êtes face à une œuvre et que quelqu'un vous dit « Oh, ben, je serais capable de faire la même chose ». Alors, ce n'est pas seulement parce que c'est extrêmement arrogant, c'est simplement parce que c'est réduire une œuvre d'art à une technique, à quelque chose que l'on peut faire, produire et reproduire indéfiniment. Donc, à un ensemble de règles, cette fois-ci, au sens, disons, au sens de concepts absolument reproductible à l'infini, si l'on renonce à cette idée que le beau, ou plutôt que la nature peut offrir des spectacles qui ne sont pas réductibles à une image et à une connaissance, alors effectivement l'esthétique demeurera un rêve peut-être, mais certainement pas une expérience.
Alors on va parler du sublime, hein, Michael Fossel, puisque quittons le terrain du beau, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on s'éloigne tant que ça. Mais allons vers le sublime et cette variation, donc Kant introduit ce passage au sublime, la question du sublime. On est ici dans l'analytique du sublime, le second paragraphe de l'analytique du sublime, toujours dans la critique de la faculté de juger. Écoutez.
Le surplomb audacieux de rochers menaçants, des nuées orageuses s'amoncelant dans le ciel et s'avançant parcourues d'éclairs et de fracas, des volcans dans toute leur violence destructrice, des ouragans semant la désolation, l'océan sans limite soulevé en tempête, la chute vertigineuse d'un fleuve puissant, réduisent notre faculté de résistance à une petitesse insignifiante comparée à leur force. Mais leur spectacle n'en devient que plus attirant dès qu'il est plus effrayant, à la seule condition que nous soyons en sécurité. Et c'est volontiers que nous appelons sublimes ces phénomènes, car ils élèvent les forces de l'âme au-delà de leur niveau habituel et nous font découvrir en nous une faculté de résistance d'une toute autre sorte qui nous donne le courage de nous mesurer à l'apparente toute-puissance de la nature. L'humanité en notre personne reste invaincue, bien que l'homme dût succomber face à cette puissance de la nature. Notre jugement esthétique ne considère donc pas que la nature est sublime parce qu'elle provoque la crainte, mais parce qu'elle mobilise en nous notre force, laquelle nous permet alors de considérer comme petits les objets de nos préoccupations, bien, santé et vie. Ainsi, nous appelons sublime la nature simplement parce qu'elle élève l'imagination à la capacité de présenter ces situations où l'esprit peut prendre conscience du caractère véritablement sublime de sa destination, supérieure même à la nature.
Est-ce que la question du sublime chez Kant, Michael Fossel, n'est pas le maintien de l'humanité ? Chez Kant, le maintien d'une position humaine par rapport au monde, c'est-à-dire de la tentation qu'aurait un homme de tenir pour infini ce qui n'est qu'infiniment plus grand que lui. Est-ce qu'en somme, ça n'est pas une façon pour Kant de maintenir l'illusion humaine que ce qui le dépasse de beaucoup est d'une hauteur absolue, en somme, d'absolutiser ce qui n'est que grand par rapport à lui ?
Oui, sauf que ça ne serait pas une illusion pour Kant, parce que la leçon, si l'on peut dire
une illusion sublime, pour Spinoza.
Voilà, assurément pour Spinoza. Mais la leçon du sublime pour Kant, c'est que la destination morale de l'homme, parce qu'il s'agit de morale, est infiniment supérieure à l'homme empirique, à l'homme naturel et corporel. Et pour cela, il faut effectivement revenir à l'analyse des exemples que prend Kant concernant le sublime.
Alors,
est-ce qu'il distingue du beau ? Dans un texte qui n'est pas la critique de la faculté de juger, mais peu importe, il a écrit « La nuit est sublime, le jour est beau ». Donc comme s'il y avait dans la beauté, la beauté était, si vous voulez, le symbole de la transparence, de la lumière, et qu'il y avait une face sombre, une face obscure à cette beauté, au jour, et cela c'est sublime. Alors, je dirais, le beau c'est la forme adéquate, c'est la forme harmonieuse. Le sublime c'est l'informe, et les exemples ici c'est quoi ? C'est le ciel étoilé, il en a déjà été question, informe au sens où il est tellement immense que nous n'arrivons pas à nous en faire une représentation.
Et pourtant l'immensité du ciel, la forme d'une voûte, vient tout entier du fait que c'est nous qui le regardons.
C'est nous qui le regardons, c'est-à-dire nous lui donnons une forme, mais cette forme elle-même...
C'est nous qui lui donnons la forme d'une voûte.
Oui, bien sûr. Mais cette forme nous, ne suffit pas à enclore le ciel. Derrière ce monde, comme le disait le texte de la critique de la raison pratique, il y a d'autres mondes, il y a une infinité de mondes que nous ne pourrons pas nous représenter, c'est-à-dire dont nous ne pourrons pas avoir une image. Autre exemple, il y a deux types de sublimes, ça c'est le sublime mathématique, c'est-à-dire celui, c'est l'infini, l'infini immesurable. Nous ne pouvons pas mesurer ce qui est infiniment grand. Bon. L'autre exemple, c'est ce qu'il appelle le sublime dynamique, là c'est le... C'est ce qui était lu d'ailleurs dans le texte, les rochers menaçants, la tempête, etc. C'est-à-dire tout ce qui, cette fois-ci, n'est pas immense ou infini dans, comme spectacle naturel, mais ce qui nous met en danger.
Ce qui est effrayant.
Ce qui est effrayant, ce qui est terrible en un sens. Et ici, Kant nous explique que ce type d'expérience, en apparence effrayante et donc déplaisante, peut nous plaire. Le déplaisir, un certain déplaisir peut nous plaire.
C'est-à-dire on retrouve la parole de Lucrèce. Hein.
Exactement.
Il est doux de regarder du rivage un navire. En train de sombrer.
C'est naufrage avec spectateur, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être le spectateur de ce naufrage pour pouvoir tirer, et non pas sur le bateau en train de s'effondrer, parce que là on est dans un domaine évidemment pathologique au sens kantien, c'est-à-dire on a peur pour sa survie. Là il faut avoir une sorte de peur sublimée dans la conviction que nous avons que cela ne peut nous atteindre.
On retrouve ici l'idée du désintéressement kantien. En somme, on est au cinéma.
On est au cinéma, mais c'est un cinéma très réaliste, si vous voulez. Il faut tout de même qu'il y ait cet effroi, hein, c'est-à-dire qu'il faut être sur le rocher et sentir.
On est au Rex.
Oui.
On est devant un grand écran, un immense écran.
Voilà,
on en prend plein la vue, comme on dit.
Un immense écran, sauf qu'on sait encore plus au Rex qu'on ne risque rien que lorsqu'on est du haut de la falaise, si vous voulez, où on peut toujours avoir cette tentation de tomber, soit de ce risque de tomber. Or, de quoi s'agit-il, finalement ? Il s'agit de faire la double expérience paradoxale et en apparence contradictoire. D'une part, de notre faiblesse totale, c'est-à-dire nous en tant qu'humains, cette fois-ci au sens, disons, d'hommes empiriques, nous ne sommes rien face à la surpuissance de la nature, nous ne sommes rien face à l'immensité du ciel, infiniment petit et infiniment fragile. Ça, c'est la première expérience motrice du sublime. Celle-là ne nous plaît pas et elle est fondamentalement distincte de celle du beau, qui est le sentiment d'une harmonie avec le monde. Bon. Mais, dit Kant, cette première expérience est la condition de possibilité d'une deuxième expérience véritablement sublime, elle, et c'est pour ça qu'il faut être à l'abri malgré tout, c'est que la nature n'est rien face à quelque chose de nous-mêmes, et ce quelque chose, c'est la liberté. C'est-à-dire que l'infinité de la nature, il y a quelque chose de plus infini que l'infini du ciel, c'est notre pouvoir moral, il y a quelque chose de plus puissant que la puissance des tempêtes, c'est notre liberté qui est capable d'être plus forte que la nature. Concrètement parlant, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous sommes libres, pour Kant, au point de pouvoir dépasser notre peur de la mort. Nous sommes libres au point de pouvoir, au-delà de l'amour de soi et du principe de conservation. Dans d'autres textes, la critique de la faculté de juger, Kant dit, et c'est tout à fait singulier, il dit « certaines guerres sont sublimes ».
C'est ce que j'allais vous dire, on peut mourir pour des idées à ce compte-là.
On peut mourir pour une idée, pas pour des idées, certainement pas pour une idée qui serait par exemple une idée nationale, ethnique. On peut mourir pour une idée qui est la seule qui fait que précisément nous sommes capables de mourir, c'est l'idée de liberté. Les guerres, car Kant écrit bien, les guerres que par ailleurs il condamne, hein, d'un point de vue juridique, éthique, de manière radicale. Les guerres menées républicainement, de manière républicaine, ce qui veut dire, on est en 1790, ce qui veut dire les guerres en vue de défendre la Révolution française. Il faut lire les choses telles qu'elles sont. Bon. Donc les guerres menées républicainement, par la République de l'époque, c'est-à-dire la France révolutionnaire, ces guerres-là peuvent être dites sublimes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moralement ou juridiquement ou éthiquement acceptables, ça veut dire qu'on peut y voir, ça annoncerait Hegel en revanche, on peut y voir comme la preuve que l'homme, pour une cause qui est celle de sa propre liberté, est capable de renoncer ou de prendre le risque, il ne s'agit pas de mourir pour mourir, bien évidemment, de prendre le risque de sa propre disparition empirique.
En somme, d'aller au-delà de lui-même.
D'aller au-delà de son moi empirique vers sa destination, qui est, elle, éthique. Alors, c'est pas une invitation à la mort, le sublime. Hein. C'est une expérience de ce que, au fond, je ne suis pas seulement ce que mon intérêt empirique, donc ma survie, en l'occurrence, me fixe ou comme borne. La liberté, elle s'exprime avant tout, c'est presque sartrien aussi, en un sens, dans une expérience de l'arrachement à la nature. Au fond, la nature, malgré sa surpuissance, malgré le déchaînement des flots et des tempêtes et des éclairs, malgré cela, quelque chose demeure, au fond, insensible en moi à la puissance de la nature, et ce quelque chose, ça ne peut être que ce qui, dans la nature, dépasse la nature, si je puis dire, et que Kant appelle toujours la liberté.
Ce qu'on comprend ici, c'est que l'arrachement à la nature est également un arrachement à l'empiricité de mon existence, à ma nature de sujet empirique, à ce qui m'inscrit dans le temps, pour le coup, ici et maintenant. L'humanité, dit Kant, l'humanité en notre personne reste invaincue, bien que l'homme dût succomber face à cette puissance de la nature. Il y a donc un au-delà de l'homme qui est l'humanité, en laquelle il se reconnaît, ou qu'il appelle autrement d'ailleurs cette faculté d'universel. C'est une phrase également qu'on peut tirer d'un côté plus lévinassien, en somme, hein, où il y aurait...
L'humanisme de l'autre homme.
Mais oui, oui, l'humanisme de l'autre homme, c'est-à-dire où il y aurait, en somme, une humanité qui irait au-delà du geste, par exemple, du meurtrier. Il y aurait, en somme, l'injonction « tu ne tueras point », par exemple, est moins une injonction que l'impossibilité qui est faite à l'assassin de tuer l'humanité de celui qui l'assassine.
Ben, l'humanité, en un sens conscient, c'est l'idée d'humanité, elle est donc en ce sens immortelle, on ne peut pas la tuer. Et le mal radical serait plutôt précisément d'essayer de la tuer en soi, d'oublier que nous sommes assujettis à une forme d'exigence éthique. Vous faites référence à Lévinas, c'est intéressant parce qu'à un moment, Kant, l'analyse du sublime...
Fait lui-même référence à Lévinas.
Non, pas encore à Lévinas, mais à une référence qui leur sera commune, qui est la référence du commandement donc, de la Bible, y compris de la Torah. Il dit la parole la plus sublime, c'est « De Dieu, tu ne te feras pas d'image ». De Dieu, tu ne te feras pas d'image. Alors, là, c'est plus Lévinas, je traduis en termes kantiens. De Dieu, tu ne te feras pas d'image. Cela veut dire de ta destination éthique, car la raison pratique, c'est le fondement de Dieu, de ce que nous pouvons, nous, hommes, appeler Dieu. Bon, de ta destination éthique, tu ne confondras pas ta destination éthique avec l'homme empirique que tu es. Alors ça peut avoir quelque chose, on peut lire cela de manière nietzschéenne et dire voilà encore une manière de marquer la transcendance absolue. Bon. On peut le lire aussi de manière, je dirais, critique, hein, donc kantienne, à savoir que il n'y a rien dans le monde, rien dans la nature qui soit un absolu. Ni race, ni état, ni personne, ni grand homme au sens quasiment hegelien. Il n'y a pas d'incarnation dans le monde d'un absolu, si par absolu on entend la liberté. Au fond, ce que Kant nous dit à propos du sublime, c'est que ce n'est pas la nature qui est sublime. Rien dans la nature n'est sublime. Ce qui est sublime, c'est la destination de l'homme par rapport à la nature. Donc c'est au fond un instrument de critique de toute forme de sacralisation de la nature. Kant ici est le moins romantique et probablement de manière certaine, alors qu'on pourrait penser qu'il l'est, c'est là qu'il est le plus critique avec ce que deviendra en tout cas très vite le romantisme allemand, cette sacralisation de la création.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, Michael Fossel, l'expérience du sublime, donc qui est une expérience, le sublime n'est pas dans la nature, il est dans mon rapport à la nature, dans le rapport que l'homme entretient avec la nature. De la même façon que Kant parle du sublime, comme Camus parlera de l'absurde. L'absurde n'est pas dans les choses elles-mêmes. L'absurde est dans le rapport que j'entretiens avec les choses mêmes, c'est-à-dire dans la non-réponse que le monde fait aux questions que je lui pose. Ainsi, Kant parle du sublime, comme Camus parle de l'absurde. Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience, d'une relation au monde.
Certainement. À ceci près peut-être que la non-réponse du monde à la question que je lui pose, pour Kant, n'invalide pas la valeur de la question. C'est pourquoi il n'en conclurait pas à l'absurdité ou à l'absence de sens. Le fait même que le monde puisse être, et il l'est pour Kant, le théâtre des pires abominations éthiques, le théâtre des déceptions en tout genre, le théâtre pour le sublime des violences, de violences infinies, je dirais d'une certaine manière, condamne le monde, mais non pas l'exigence morale qui porte sur lui, condamne le monde tel qu'il est dans cette situation présente, mais non pas le sens moral ou l'exigence morale qui le détermine. C'est ça la question sur l'espérance. Hein. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand on parlera de la religion. Je dirais qu'il y a une espérance possible parce qu'elle est rationnelle. C'est-à-dire qu'au fond, elle-même demeure valide malgré, encore une fois, les démentis de l'expérience. Hein. Au fond, le sublime, c'est aussi cela. La nature peut être aussi puissante, aussi terrible, aussi terrifiante que l'on peut le craindre. Sa puissance ne peut pas affecter la valeur absolue de l'exigence morale, c'est-à-dire au fond de la liberté. C'est donc aussi une manière de ne pas désespérer, si vous voulez. Au fond, Kant, c'est un philosophe fondamentalement et radicalement, je crois, anti-cynique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu, il ne peut pas, il n'est pas possible pour lui, parce qu'on est simplement parce qu'on n'est pas au même niveau, si vous voulez, il n'est pas possible de conclure des actes les plus terrifiants que l'on peut constater dans la nature, enfin dans la nature humaine en l'occurrence, à la méchanceté fondamentale et définitive, je veux dire, de l'homme, au fond, on ne peut pas conclure, en termes kantiens, de ce qui est de l'ordre empirique à l'ordre nouménal, hein, pardon d'employer ce terme, c'est-à-dire de l'ordre de la nature à l'ordre de la liberté. Ce qui se produit dans la nature n'invalide pas ce qui vaut du point de vue de la raison pratique de la liberté.
Merci Michael Fossel. Ainsi va la critique de la faculté de juger. C'est d'elle que nous avons parlé aujourd'hui et que vous pouvez vous procurer, chers auditeurs, tout simplement en folio chez Gallimard. Peut-être également pouvez-vous vous aider pour lire la critique de la faculté de juger de Kant et l'équivoque du monde, votre livre Michael Fossel sur Kant, paru aux éditions du CNRS. Demain, jeudi, nous parlerons du mal radical chez Kant, à ne pas confondre avec le mal absolu. C'est une extrême difficulté et c'est tout à fait passionnant. Et en même temps, d'ailleurs, la question du mal radical connaît des applications pratiques extraordinairement concrètes qui vous aideront à le comprendre. Vous pouvez podcaster ces émissions toute la semaine, évidemment, sur notre site internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, à la réalisation François Connac. Assistante et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Tristan Grenassia. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.